Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour, ça y est, bien nous y sommes dans un studio avec une vraie vitre, des micros installés à l'année. Et puis, eh bien, autre événement, c'est une semaine cannoise, en effet, de films issus de la compétition officielle qui ne s'est jamais déroulée, faute de festival, sont dans les salles depuis le 16 septembre. Et ce sont deux films français. Il y a tout d'abord les choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret et le plus inattendu, Antoinette dans Les Cévennes. Et puis tiens, qui a dit ça?
Mais moi, j'en peux plus d'aller voir des films et de me dire que j'ai passé une heure et demie avec des cons.
Guillaume, tu le sais?
Oui, c'est Caroline Vignal, sa réalisatrice.
Que tu as rencontrée avec son actrice, Laure Calamy. Donc ce sera la partie interview de cette émission. Et puis sinon, tu vas nous parler aussi d'une ressortie.
Oui, on se casse sur Mars avec Total Recall de Paul Verhoeven.
Ce qui nous donnera l'occasion de jouer un blind test avec la filmographie de Paul Verhoeven. 5 extraits à écouter. Et évidemment, il faudra en deviner le titre, mais nous allons commencer avec un documentaire trio. C'est toi, Manu, qui va nous en parler. Bienvenue dans Cinérama.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre, Manu, que ce trio est musical?
Oui, très musical, mais ce n'est pas que ça. Hein. Donc, on pourrait dire au départ que ma femme est un violon, pour reprendre le titre d'un film de Festa Campanile, où mon violon est une femme, soit trio, une histoire d'amour entre un homme, Georges, sa femme, Sorina, et un violon. Alors, à travers la parole et le regard de Georges et Sorina, ce sont 60 ans d'histoire de la Roumanie qui sont revisités, avec au centre la chute du communisme et la figure de Ceausescu, un personnage clé d'une contrée qui ne s'est jamais remis de la après 89. En témoignent les propos terribles et même peut-être intolérables pour nous, en fait, hein, de Georges qui considère qu'il était plus heureux sous le règne du dictateur. Alors ces brefs éclats de noirceur, au sein d'un essai cinématographique plein de tendresse et d'humour, sonnent comme des contrepoints nécessaires à ce qui demeure un portrait touchant d'un couple, comme il en existe tant, complice et pourtant tout le temps en train de se chamailler. Alors Anna Dumitrescu tente et réussit souvent de s'imprégner de l'âme slave, de capter des instants intimes qui n'appartiennent qu'à un peuple qui a beaucoup souffert. Elle filme bien d'ailleurs les lieux, que ce soit la maison de Georges et Sorina, les ruelles abandonnées d'une ville moyenne, le métro ou encore un cimetière. Il s'y dégage une atmosphère étrange, à la fois triste et envoûtante, qui en dit plus long que bien des discours politiques. Alors pour cela, elle utilise les moyens du cinéma. Dans un noir et blanc somptueux, elle promène sa caméra flottante et aérienne au sein de l'intimité du couple, utilisant à merveille la Steadicam. Elle se fend de quelques beaux travelling latéraux, évoquant les premiers films de Jim Jarmusch. Alors la cinéaste puise aussi ses références dans des films aux antipodes du sien, que ce soit Orange Mécanique ou Funny Game. Alors totalement maître de son quatrième long métrage, puisqu'elle tient à la fois le rôle de monteuse, chef opératrice et réalisatrice, Anna Dumitrescu pose un regard lucide sur le pays, laisse aussi beaucoup de place au silence et à la musique. Alors cette musique, qui tient Georges en vie, lui redonne de l'espoir et transcende la dureté du quotidien. Alors Trio dépasse le cadre étriqué du documentaire pour infiltrer une part de fiction. Il s'agit au fond d'une sorte de voyage poétique et réaliste au cœur d'une partie oubliée de l'Europe. Alors, en dépit d'un rythme parfois un peu alangui, de répétitions inutiles, ainsi qu'une propension à se laisser aller à quelques ralentis un peu agaçants, Trio s'avère un beau film, articulant intelligemment la grande histoire et la chronique sociale intimiste. Le film alterne des séquences éprouvantes, alors comme la mise à mort d'un cochon, hein, sorte d'allégorie sur la dureté et la violence du pays, et d'autres bouleversantes, en l'occurrence le moment assez magique où Georges découvre pour la première fois de sa vie la mer. Alors pour ces instants, ce petit film, hein, qui est en fait réalisé par la réalisatrice est française, hein, elle est d'origine évidemment de Roumaine, ce petit film mérite vraiment le détour.
En tout cas, il est dans les salles depuis le 16 septembre, tout comme le film d'Emmanuel Mouret, qui aurait pu monter les marches du Festival de Cannes, hein, le réalisateur, si ce festival avait eu lieu. Son dernier long métrage figure dans la compétition officielle, donc qu'on n'a pas vu.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi. Mais c'est vrai, j'avais pas d'attirance. C'était vraiment plus qu'impossible de m'imaginer être avec toi.
Pourquoi c'est impossible?
Parce que tous les gens autour de moi me voyaient bien avec toi.
Emmanuel Mouret est un peu à part dans le cinéma français, aisément reconnaissable malgré les changements opérés dans sa filmographie. S'il a d'abord débuté avec des comédies burlesques, le très réussi Changement d'adresse, ou encore Fais-moi plaisir, qui nous emmène à l'Élysée, Emmanuel Mouret a peu à peu quitté le burlesque pour le sourire et l'a parfois gommé. Mais il y a quelque chose qui est resté chez Mouret, ce sont les joutes oratoires et les explications. Alors les thèmes sont aussi récurrents. Hein. Pour tirer un gros trait, on pourrait dire qu'Emmanuel Mouret questionne les sentiments et pas seulement amoureux, mais surtout quand même. Alors au travers de ce questionnement, il fait émerger l'inconstance des hommes et des femmes quand il s'agit de construire une histoire amoureuse, et c'est sans doute le sens du titre de ce film. Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, sous-entendu, elles sont difficilement les mêmes. Alors reprenons le pitch officiel qui balise bien le cadre du film. Daphné, interprétée par Camélia Jordana, est enceinte de 3 mois. Elle est en vacances dans le sud de la France avec son compagnon François. Il doit s'absenter pour son travail et elle se retrouve donc seule pour accueillir Maxime, son cousin qu'elle ne connaît pas. Pendant 4 jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime, interprétés par Nils Schneider, font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leur histoire d'amour présente et passée. On fait donc des allers-retours, ce qui n'est pas nouveau chez Mouret, entre présent et puis des flashbacks. L'occasion de faire intervenir plusieurs personnages. Maxime est notamment confronté à Sandra, une fille avec qui il aurait aimé avoir une histoire, mais qui a une vision particulière des sentiments.
De toute façon, il n'y a aucune application de rencontre que je trouve pertinente. Si je devais en concevoir une, il s'agirait d'une application où les rencontres se font aléatoirement, et non par affinité.
Aléatoirement, par pur hasard?
Oui, c'est ça qui serait le plus intéressant. C'est ce qui constituerait une vraie aventure amoureuse, la rencontre avec l'autre dans toute sa différence.
Mais pourquoi être contre les affinités?
Parce que c'est immoral. Chercher quelqu'un en fonction de ses intérêts, c'est rien d'autre que la recherche d'intérêt. Choisir quelqu'un parce que son physique est agréable, parce qu'il aime les chats, le tennis et Mozart, c'est constituer un capital, c'est pas de l'amour.
Mais quand il y a une attirance forte entre 2 personnes?
C'est pareil. Il y a l'intérêt de combler un appétit sensuel. Prête-moi ton corps, je te prêterai le mien.
Oui, finalement, les choses étaient moins hypocrites à l'époque des mariages arrangés. Les choses étaient plus claires.
Mais oui, absolument d'accord.
Mais l'amour, qu'est-ce que vous en faites?
Alors la scène est longue, hein, mais je l'ai coupée. Alors quand je parlais de joute oratoire, eh bien ce n'est pas exagéré, mais pourtant, malgré ces dialogues abondants, jamais le film ne devient pesant ou oiseux. Mouret, qui est à l'écriture, sait parfaitement resserrer son propos et son récit. Les explications sont nécessaires pour mettre en avant les contradictions des personnages et leur complexité. Il y a ce que les personnages ont voulu faire mais n'ont pas fait, tout ce qu'ils ont fait sans croire qu'ils pourraient le faire. Alors si Maxime est amoureux ou attiré ou désire une femme qui n'entend pas se laisser prendre, eh bien Daphné, attentive à son récit, elle raconte comment elle est avec François, interprété par Vincent Macaigne, et bien comment elle est allée avec lui par dépit, parce que l'homme qu'elle aimait, eh bien, en aimait une autre.
Je t'aime.
Non, tu peux pas me dire ça. Tu me connais même pas. Et puis on tombe pas amoureux comme ça. Je suis pas amoureuse de toi. Enfin, je partage pas ce que tu me dis et ça me met mal à l'aise. Enfin, je te trouve très sympa et je suis bien avec toi, hein, mais... Il faut que tu saches que j'aime quelqu'un d'autre.
Enfin, pourquoi tu me l'as pas dit quand on s'est rencontrés? Parce que moi, je t'ai dit que j'étais mariée.
Parce que je suis pas avec lui.
Pourquoi?
Parce que c'est compliqué. Je veux pas du tout en parler.
Alors si au début on est en plein vaudeville avec beaucoup d'histoires d'hommes et de femmes mariés, le propos de Mouret alors n'est pas moral, hein. Ce qui l'intéresse c'est la mécanique des sentiments et de ce que les personnages ont à en dire. La mise en scène qui accompagne ces situations et ces déclarations fourmille de longues séquences. L'enchevêtrement des récits passés et présents qui finit par ronronner comme une douce musique sont aussi parfois rompus par une séquence qui redistribue les cartes et nous montre bien les choses sous un autre angle. On n'en finit pas de s'interroger dans ce long métrage bercé un peu trop peut-être, hein, par la musique essentiellement classique entre Schubert, Chopin ou Satie. Et je me souviens d'un film, je ne sais plus lequel, Un baiser s'il vous plaît peut-être, où Schubert était de toutes les séquences. Alors le récit emmené par Emmanuel Mouret est réussi et le casting est parfait, hein, entre Émilie Dequesne, Nils Schneider, Guillaume Gouix, que moi j'adore, Vincent Macaigne aussi, Camélia Jordana et Jenna Thiam. Dernière petite tentative d'explication du sentiment amoureux, tiens.
L'amour, j'en fais quelque chose de plus beau. Quelque chose comme un don, un abandon, un dépassement, une aventure vers l'autre en ce qu'il est différent de nous. En tout cas, autre chose qu'une recherche d'intérêt et de bénéfices personnels.
Mais donc pour toi, le sentiment d'être amoureux, c'est tout sauf de l'amour.
Hein ? Si on y croit, c'est comme on croit au Père Noël. Et quand on y croit vraiment, c'est bon. C'est très bon, je m'en souviens bien.
Deuxième film figurant dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2020, Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, une comédie romantique avec un âne que Guillaume, eh bien toi tu as vu, et tu as aussi eu le plaisir de rencontrer la réalisatrice et puis l'actrice, Laure Calamy. Mais avant de les écouter, eh bien tu vas nous parler du film.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. What else? Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
20 ans d'absence pour Caroline Vignal qui retrouve enfin le chemin des salles obscures avec donc Antoinette dans les Cévennes. Elle signe un nouveau portrait de femme qui nous invite à quitter la métropole ou plus largement les grandes villes pour se ressourcer en plein air. Donc 20 années, ça fait beaucoup et l'on note que l'héroïne du premier film, Les Autres Filles, a laissé place à une femme mûre mais qui n'est pas pour autant plus avancée que son aînée sur la délicate question de l'amour. Cette fois, la fuite en avant à travers champs va être l'occasion de pouvoir se réinventer à la manière d'un roman picaresque qui n'en oublie pas pour autant les codes du burlesque et les quiproquos cinématographiques. Antoinette est très amoureuse de Vladimir qui n'a qu'un seul défaut, c'est qu'il est marié. Dépitée par sa décision de partir en vacances dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, elle décide de lui faire une surprise et de le retrouver là-bas. En cours de route, elle va bien sûr apprendre sur elle-même, les autres et ce qui va vraiment la rendre heureuse. Antoinette, c'est Laure Calamy, un concentré de bonne humeur qui va nous tenir la main tout le long du chemin de Stevenson. Car oui, l'auteur plus connu pour L'île au trésor et l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde est venu faire un voyage dans les Cévennes à cause d'une peine de cœur et en a tiré un livre, donc Voyage avec un âne dans les Cévennes, qui deviendra une référence pour les randonneurs du monde entier et qui permettra à son auteur de retrouver son aimé. Ce parallèle assumé, il est explicitement cité dans le film, hein, permet à Caroline Vignal de donner à son récit une belle structure, plutôt inhabituel dans ses dernières productions comiques françaises. Son inspiration avouée des schémas des comédies romantiques anglo-saxonnes mitonnées à la sauce d'un terroir nous offre une histoire plus tendre que drôle et dans tous les cas particulièrement attachante. C'est un périple qui ne laisse pas de marbre et qui fait du bien.
Caroline Vignal, donc la réalisatrice, et puis Laure Calamy était au micro de Cinérama. On les écoute.
Je me suis dit maintenant je veux réaliser, j'ai lu le livre de Stevenson. Et c'est vraiment le livre de Stevenson qui m'a servi de guide, en fait, pour écrire ce film.
Allez, à nous!
Elle est où, ta femme?
J'ai aucune idée.
Antoinette, je suis pas là la semaine prochaine. On part tous les trois dans les Cévennes.
Tous les trois?
Non, pas toi, nous trois, avec Alice.
Je me suis beaucoup servi des ressorts de la comédie romantique pour raconter l'histoire d'Antoinette et de Patrick. C'est-à-dire que je suis vraiment, j'ai suivi le schéma qu'on voit dans toutes les comédies romantiques ou dans les body movies, c'est-à-dire ils peuvent pas se blairer, ils s'apprivoisent petit à petit, mais ils savent pas qu'ils s'aiment, ils continuent à penser qu'ils s'aiment pas, en fait ils s'aiment, mais nous on le voit, eux ils le voient pas. Et petit à petit, ils commencent à... Et au moment de se séparer, enfin ils découvrent qu'ils s'aiment et que... Mais voilà, du coup ça m'amusait énormément d'utiliser ces codes pour raconter l'histoire d'une femme et d'un âne. Ça reste chaste, évidemment.
Il vaut mieux pour mon anatomie.
Mon Dieu.
6 jours de marche, on est d'accord?
Oui, c'est ça, oui.
870 euros.
870 euros.
Vous marchez avec un âne?
Pourquoi? Pas vous?
Non, on n'est pas les fous.
Bonjour, Patrick.
Voilà, s'il prend de la vitesse dans les descentes, hélicoptère, hein, il a peur, il s'arrête.
Et pour avancer?
Allez, Patrick, avance!
Là, il faut vraiment que tu t'imposes. Hein.
Avance!
Faut que tu lui montres qui est le maître.
Allez, mon gros!
Qu'est-ce qui va pas?
Tu vas avancer, espèce de bourrique de merde!
Quand j'ai lu, j'ai pas décroché, je l'ai dévoré. Je me dis, c'est pas possible, il faut absolument que ce soit moi qui fasse ce rôle. Tellement d'abord, je me sentais dans l'imaginaire, enfin dans ce qui était raconté, ou dans des réactions de ce personnage, son espièglerie, son culot, sa manière de partir, de pas se laisser faire par la vie. Enfin, ça, j'aimais beaucoup, et puis je m'en sentais proche dans l'imaginaire pour avoir pu faire des choses un peu bizarres comme ça, moi-même dans la vie. Mais, et puis au-delà de ça, tout ce que ça racontait, moi, puisque j'ai aussi une histoire intime avec les Cévennes, la marche que j'ai découvert il y a 10 ans par un homme que j'ai rencontré. Et du coup, pour moi, c'était écho à des tas de choses très intimes au passage. Et en plus, je trouvais que c'était... je riais, j'ai pleuré à la fin.
Vladimir, il me plaisait pas du tout. C'était pas du tout mon genre. Oh, maîtresse. Oh, Alice. Ça alors,
c'est extraordinaire.
Je te demande une chose. Ne viens pas avec nous demain.
Les Cévennes, en fait, c'est assez rare, je trouve, en France, des endroits où on a cette impression d'immensité. C'est pas très cultivé. Enfin, il y a ce truc comme ça qu'on voit qui ne peut pas ne pas faire penser au cinéma américain, parce que finalement, c'est... et comme on a tourné en scope et que Laure avait un chapeau... Je crois que comme j'ai pas fait de film pendant très longtemps, j'ai un peu mis tout ce que j'aime dans le film, en fait.
C'est mon get-up demain, ça va beaucoup grimper.
Je suis pas venue pour des bonnes raisons.
L'important, c'est pas le but, c'est le chemin.
Arrête, Patrick!
Mais moi, j'en peux plus d'aller voir des films et de me dire que j'ai passé une heure et demie avec des cons. Il y a plein de films où je trouve les personnages insupportables et je vois pas. J'en ai marre, quoi. J'en ai marre. Je trouve que les gens sont... Enfin, il y a des cons, hein, on sait, mais j'ai pas envie de les filmer, quoi.
Vous déjeunez pas avec nous?
Vous déjeunez pas avec nous?
Antoinette, dans Les Cévennes, donc c'est un film qui aurait dû être en compétition à Cannes, mais qui ne l'a pas été, mais il fait partie de la sélection officielle et il est en salle depuis le 16 septembre. Maintenant, évoquons une ressortie. C'était en 90, Total Recall sortait, et voilà qu'on lui met une couche 4K et qu'on le remet dans les salles. Et encore une fois, tu vas nous en parler, Guillaume.
Comment fait-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
Je commence par une question. C'est quoi une œuvre intemporelle? Ou mieux, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre devient intemporelle? Est-ce qu'il faut forcément qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise? On s'écharpe souvent dans le milieu de l'art pour savoir ce qui marque la transition entre une œuvre bonne et une œuvre qui reste. Je pense que l'indice est à chercher du côté des copieurs. Le phénomène n'est pas nouveau et il est intéressant de se pencher du côté des moines copistes du XXe siècle, c'est-à-dire les producteurs de cinéma. Ils sont nombreux les films à être tombés dans les tranchées sanglantes du remake. C'est le cas de la seconde œuvre de Paul Verhoeven en terre américaine qui n'a pas pu éviter les balles de ce révisionnisme 2.0. Ben ouais, passé un certain temps, vaut mieux aller voir des mises à jour que des vieux trucs. Sauf que, on va le voir aujourd'hui, le Total Recall de Paul Verhoeven, c'est un cas bien particulier. Direction l'espace, car on se casse sur Mars.
Quaid, attrape!
Attention à la petite surprise!
Bienvenue sur Mars.
Pour radiner ta gueule ici, faut que tu manques pas d'air.
Et toi, tu t'y connais.
Total Recall, c'est donc un film de science-fiction sorti en 90. Le passage à une nouvelle décennie marque un tournant dans le paysage du film d'action américain. Arnold Schwarzenegger cessait depuis peu à la comédie, témoignant de la volonté d'ouverture du culturiste vers d'autres domaines populaires que celui des explosions. La même année où lui décide de dérider ses zygomatiques, son réalisateur de Predator, John McTiernan, révolutionne le genre du film d'action avec Piège de cristal et son héros plus réaliste joué par un Bruce Willis qui ne connaissait alors que l'univers de la comédie. Consciemment ou non, le chêne autrichien devine peut-être que le règne des gros bras touche à sa fin, ce qui va se confirmer quelques années plus tard avec l'échec du putain fabuleux Last Action Hero de John McTiernan, eh oui. Nul n'est éternellement prophète en son genre. 90, c'est l'année du dernier baroud d'honneur de ses productions avant qu'un certain Terminator 2, toujours avec Schwarzy, vous suivez toujours, ne vienne inclure de nouvelles perspectives visuelles. Et donc, Total Recall avec Predator 2, mais pas de John McTiernan cette fois, constitue l'une des dernières réunions à l'ancienne de tous les talents de ce genre. Le capitaine du bateau, c'est la star elle-même qui le choisit. Ce sera Paul Verhoeven, surnommé par la presse le Hollandais violent, qui inaugurait 3 ans plus tôt son arrivée aux USA avec le classique instantané Robocop, vision satirique et ultra-violente de l'Amérique riganienne. Le scénario se base sur une nouvelle de Philip K. Dick, Souvenir à vendre, et connaîtra un nombre conséquent de réécritures pour trouver le ton idéal entre l'ambiance paranoïaque de l'écrivain et la volonté d'entertainment musclé des producteurs et de l'interprète de Conan. Schwarzy se glisse dans la peau de Douglas Quaid, un travailleur à la vie banale, enfin bon, il est quand même marié à Sharon Stone, hein, qui va voir sa vie bouleversée lorsqu'il va céder aux sirènes de Mars. Ne pouvant y aller en personne, il va se faire implanter des souvenirs d'un voyage virtuel grâce à la société Recall. Le problème est que la tentative d'opération va révéler qu'il a subi un lavage de cerveau, qu'il n'est pas Douglas Quaid mais un certain Hauser, qu'il est déjà allé sur Mars et que grâce à lui, les rebelles martiens, et la planète tout entière, pourraient retrouver leur indépendance du terrible homme d'affaires Coagen, dont la milice survoltée va essayer par tous les moyens d'arrêter notre héros. Planète rouge, oui, rouge sang.
Ils ont effacé ton identité et t'en ont implanté une nouvelle.
Alors qui je suis ? Si je suis pas moi.
Non, c'est trop. On ne peut pas le laisser dans la nature.
Ils vous ont mis un émetteur.
Je l'ai focalisé.
Il a un hologramme !
Bienvenue dans ce taxi vision.
Fonce ! Où je vous emmène ce soir.
Attachez votre ceinture, s'il vous plaît.
Vous l'avez compris, Total Recall est une œuvre somme, un film de tous les excès. On y mixe humour, science-fiction, histoire d'agents secrets, fusillade à gogo, des androïdes, des hologrammes, une rébellion, des mutants, dont une femme à trois seins. C'est une histoire ultra enthousiasmante d'un homme ordinaire appelé à embrasser un destin extraordinaire, tout droit tiré d'une bande dessinée de métal hurlant, et que l'adolescent qui sommeille toujours en nous aimerait vivre. Pour couronner le tout, un constant voile opaque est jeté pour semer le trouble sur ce que nous sommes en train de vivre avec son protagoniste. Est-ce la réalité, le rêve ? À vous de voir si la conclusion vous apportera la réponse. En attendant, le voyage de rêve est assuré par la partition assez exceptionnelle du génial Jerry Goldsmith. Je vous mets au défi d'oublier le thème principal. Et les maquillages des mutants sont confiés au légendaire Rob Bottin. Eh ouais, The Thing de John Carpenter, c'était lui. Là aussi, impossible d'oublier des personnages comme Quato, le leader de la résistance martienne. Alors non, malgré tout ça, Total Recall n'est pas parfait. La production, pas si énorme que ça, n'a pas eu forcément tous les moyens de ses ambitions pour certains décors qui font aujourd'hui carton-pâte. Et il faut avouer que l'habituel directeur de la photographie de Verhoeven, Jost Vacano, n'a pas livré son plus beau travail. Il n'empêche que le film rencontrera un très gros succès et qu'il aura marqué au fer rouge la culture populaire. Deux décennies plus tard, il se verra remaké de façon plus sérieuse par des producteurs, n'hésitant pas à dire que l'original était ringard. Ce sera un échec total, car c'était méconnaître le charme de cet opus original qui, lui, revient régulièrement à la vie sur tous les nouveaux supports et qui bénéficie d'une nouvelle restauration. Preuve que le culot, lui, y reste.
Amenez-moi quoi être vivant pour réimplantation.
Ça t'apprendra à me faire venir sur Mars. Tu vas pas me faire de mal ? Après tout, on est mariés.
On considère ça comme un divorce.
Total Recall est à l'image de son titre, hein. C'est un spectacle total qu'on ne peut pas oublier. C'est un marqueur de son époque, un pot pourri d'une époque secouée dans un shaker et qui fonce directement vers le plat de résistance. C'est une saveur indélébile sur le palais. C'est une autre définition de ce qu'on peut appeler une œuvre intemporelle. Pensez que Total Recall est aussi le nom qu'a donné Schwarzenegger à son autobiographie, c'est dire.
Eh bien, merci Guillaume pour cette introduction donc à ce film culte qui aurait pu être réalisé par David Cronenberg. Bon, il se trouve que c'est Paul Verhoeven qui l'a fait. Ça nous donne l'occasion donc de jouer un blind test. 5 titres de sa filmographie à trouver. Voici un premier extrait très facile.
Comme vous le savez, nous avons passé un contrat avec la ville pour gérer la répression criminelle. Mais les chercheurs de ce service sont persuadés qu'une force de police efficace n'est qu'une partie de la solution. Il nous faut quelque chose de plus. Il nous faut un policier qui fonctionne 24 heures sur 24. Un policier qui n'a besoin ni de manger, ni de dormir. Doté d'une grande puissance de feu et des réflexes adéquats. Mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter le champion de la sécurité publique.
Qui est
Robocop.
Voilà, il se trouve que c'est pas Robocop qu'il présente dans cette séquence. Donc l'officier Alex Murphy est brutalement assassiné par des criminels, mais il est ramené à la vie par l'OCP, une société qui le transforme en robot policier. 1 600 000 entrées en France. Et Robocop 2014, vous savez combien ça a fait d'entrées ?
Absolument pas.
680 000, comme quoi il y a une justice. Deuxième extrait.
Nous avons vu comment et pourquoi la démocratie a été un échec. Comment les socio-scientifiques ont conduit le monde au bord du chaos. Nous avons parlé des vétérans, de la façon dont ils se sont assurés le contrôle et ont imposé la stabilité qui devait persister durant des générations. Vous connaissez ces faits, mais vous ai-je appris quoi que ce soit de valable au cours de l'année ? Pourquoi seuls les citoyens ont-ils le droit de vote?
C'est une gratification, ce que la fédération vous donne si vous faites votre service fédéral?
Non. Non. Il n'y a pas grande valeur à quelque chose qui nous est donné. Écoutez, en votant, vous exercez une autorité politique analogue à l'usage de la force. Et la force, mes amis, c'est la violence. La suprême autorité dont toute autre autorité n'est qu'un dérivé.
Ma mère disait toujours que la violence ne résout rien.
Ah oui?
Voilà, ironique, donc c'est trouvé.
C'était Starship Troopers.
Film de 97, les hommes livrent une guerre contre les arachnides, dénonciation du fascisme et de l'impérialisme américain, mal compris par certains lors de sa sortie. 964 000 entrées et des poussières en France, imité mais jamais égalé, hein, parce qu'il y a eu plusieurs suites et bientôt un reboot. Voilà, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il est programmé exactement. Troisième extrait.
Vous travaillez sur un nouveau roman ?
Exact.
Pas marrant tous les jours, votre boulot, au fond inventé tout le temps.
Ça apprend à mentir.
C'est-à-dire ?
Eh bien, quand vous inventez, il faut que ce soit crédible. Ça s'appelle la suspension d'incrédulité.
J'adore ça ! Suspension d'incrédulité !
De quoi il parle, votre nouveau bouquin ?
C'est l'histoire d'un flic, amoureux de la femme qu'il lui faut pas.
Et qu'est-ce qui se passe ?
Elle le tue.
Là, le personnage joué par Sharon Stone raconte tout.
Donc c'est Basic Instinct.
Film de 92 avec Michael Douglas, voix française qu'on reconnaît aisément. Un enquêteur qui se lance donc dans une relation torride avec le principal suspect, une bisexuelle sociopathe. 4,6 millions d'entrées en France. C'est, je crois, le plus gros résultat au box-office du réalisateur néerlandais. Et une suite avec Sharon Stone a été faite, mais sans le réalisateur qui avait quitté le bateau. Allez, quatrième extrait.
Quel boucan vous faites ! On dirait que la radio marche à fond.
Papa ! Ta fille va se marier. Qu'est-ce que tu dis de ça ?
Ah, eh bien, quel est l'heureux élu ?
Moi.
C'est lui qui a bousillé ta voiture, tu le reconnais ?
Et qui a porté secours à ma fille.
Et tu vas permettre ça ?
Mais que veux-tu que je fasse ? Que je me batte ?
On cesse de faire le pitre et toi, écoute-moi. Tu n'épouseras pas ce petit voyou. Je n'ai pas envie de devenir la risée de tout le monde. Tu m'entends ? Tu ne l'épouseras pas ! Ah, vous trouvez ça drôle ? Eh bien, si tu ne te débarrasses pas de ce petit salon, je te prie de croire que vous ne rirez plus et que je ne le revois plus ici !
Bon, ça a été plus compliqué que les précédents. Ça, c'est la période néerlandaise.
Oui, mais non, mais c'est pas évident. Je savais même pas qu'il existait une version française de Turkish Delight.
Je l'ai trouvé. Histoire mouvementée entre Eric, un artiste fantasque, et Olga en compétition avec La Nuit américaine aux Oscars 74, mais c'est le film de Truffaut qui l'a emporté. 529 000 entrées en France quand même à cette époque, déjà. Dernier extrait.
Je sais pas si c'était moi. Je foutrais les boules à tout le monde, je leur chuchoterais des conneries. Je me planquerais dans les défilés de lingerie. Je serais vraiment le roi.
C'est infantile, tu ne crois pas ?
Non.
Mais il était tard. Je ne suis pas sorti longtemps.
Vous avez vu personne ?
Il y avait cette femme seule.
Ouais ? Et est-ce que vous l'avez ?
Non. Enfin, je lui ai fait peur, je crois.
Ah ouais ? Ça vous a fait quoi ?
J'ai adoré.
Génial.
Bah oui, tiens, ça c'est drôle de faire peur aux femmes. Ça a été trouvé ?
C'est Holoman ?
Oui, film de 2000. Un brillant scientifique effectuant des recherches sur l'invisibilité pour le compte de l'armée américaine teste le procédé sur lui. Eh bien, sauf que le procédé n'est pas réversible. Voilà. Film qui a plutôt marqué les esprits. 1,5 million d'entrées en France. Et si vous aviez un film à choisir parmi cette filmographie de Paul Verhoeven, ce serait quoi ?
Bah, sans doute Starship Troopers.
Moi, c'est Basic Instinct.
Voilà. Eh bien, moi, ce serait Starship Troopers. Donc, 2-1. Ainsi s'achève ce blind test consacré au réalisateur néerlandais.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien, voilà. On s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre.
Comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine, sans doute. Nous vous parlerons des apparences avec Karine Viard et Benjamin Biolay, et Éléonore avec l'humoriste Nora Hamzaoui. Et toi, Manu ?
Eh bien, je vous parlerai d'un film d'animation entièrement muet qui s'appelle Ailleurs.
À la semaine prochaine.
is Cinerama.